Le petit grain de sable orgueilleux. Première partie. Le petit grain de sable orgueilleux. Corentin rentra du bac à sable des acacias, furieux. Il y avait joué aux billes, il avait perdu. Car Corentin jouait aux billes. Ce n'est pas parce que l'on est un héros de conte que l'on n'a pas le droit de jouer aux billes. Il n'y a rien de honteux à ça. Ce qui est honteux, c'est de perdre. Et Corentin avait perdu. Les copains n'avaient même pas triché. Simplement, Corentin avait été mauvais. Il avait dû céder coup sur coup ses deux billes les plus fidèles, les plus précieuses. Reine, une agate au teint goutte d'eau, décorée d'une larme orange, dernière représentante d'une compagnie d'agates vert d'eau, toutes tombées une à une. Et surtout, Cendrillon, une bille unique, une solitaire. Une bille de collection d'un gris clair rare, aussi légère que sont lourds les boulets. C'est Maximilien, que tout le monde à l'époque appelait Drac, le meilleur joueur de billes de la classe, qui les lui avait raflées. Drac devait accumuler chez lui une gigantesque collection de billes. Une seule pourtant hantait l'esprit de Corentin, Cléopâtre, la plus belle de toutes, une bille toute blanche, immaculée. Laiteuse. Cléopâtre n'était pas seulement magnifique, elle était devenue un mythe, une obsession. Toute la classe s'obstinait, s'acharnait dans l'espoir de la ravir un jour à Drac. Chacun, sans succès, y sacrifiait ses meilleures billes. Reine, Cendrillon, perdus ce matin. Cet après-midi, Malika, une des tireuses les plus précises de la classe, avait dû abandonner à Drac 4 boulets. Pour rien. Corentin entra furieux dans sa chambre, comme un fou, furieux. Il se jeta sur le lit où Toboggan le clown dormait tranquillement. D'un double coup de pied, Corentin envoya Toboggan valser hors du lit. Toboggan fait de chiffon avait l'avantage de n'avoir rien à craindre lors de ce genre de vol plané, un peu comme un chat qui retombe toujours sur ses pattes. Il atterrit mollement, sans bruit. Il n'appréciait pas pour autant d'être ainsi réveillé en sursaut, mais Toboggan exerçait son métier de clown avec sérieux, et ce que l'on apprend en premier à un clown, c'est à cacher ses sentiments. C'est à cela que sert le maquillage. « Monsieur Corentin aurait-il ses humeurs ?» pensa-t-il. Il dut le penser un peu trop fort, car Corentin lui répondit « Justement, je cherche un punching ball pour passer mes nerfs. » Un truc en chiffon que je pourrais accrocher au plafond, si tu vois ce que je veux dire. » Toboggan connaissait Corentin depuis longtemps. Il savait comment faire enrager Corentin sans se fâcher, sans hausser le ton. Il s'adressa à Monsieur Jean. Monsieur Jean connaissait Corentin depuis toujours, depuis le premier jour, depuis la première heure. Monsieur Jean était le premier cadeau de Corentin, son premier souvenir, sa première rencontre avec un objet. C'est peut-être grâce à Monsieur Jean qu'il connaissait le langage des objets. Il était son nounours de bébé, comme l'on dit. Et entre nounours et nounou, il n'y a que 2 petites lettres de différence.
« Vous ne trouvez pas, Monsieur Jean, dit à haute voix Toboggan, que le jeune Corentin prend des grands airs depuis quelque temps ?»«
C'est normal, répondit Monsieur Jean. Il grandit.
Il grandit. Il vieillit, oui. Voyez-vous avec quel mépris il traite ses meilleurs amis? À croire qu'il a honte de nous? Tout juste s'il ne nous enferme pas dans un placard quand il invite des copains. Et vous, monsieur Jean, depuis combien de temps vous laisse-t-il sur cette étagère? Sans un mot, sans un regard, alors que vous l'avez élevé pendant tant d'années? À dormir avec lui? À vous baigner avec lui? À vous traîner partout? À vous laisser arracher les yeux, les pattes, les poils, au point de ressembler davantage aujourd'hui à un paillasson qu'aussi bel ours que vous étiez.
C'est la vie, monsieur Toboggan. Les enfants grandissent pendant que les peluches vieillissent.
Corentin était de plus en plus furieux. Il détestait par-dessus tout qu'on parle de lui à la troisième personne, comme le ferait sa mère ou sa grand-mère. Surtout qu'on parle de lui à la troisième personne, comme le ferait sa mère ou sa grand-mère, dans sa propre chambre. Car lorsque votre famille devient trop insupportable, ou vos copains, ou tout simplement la vie, je suppose que vous êtes comme Corentin. Vous vous réfugiez dans votre chambre, seul, sans personne pour vous prendre la tête. Il y a des jours où Corentin regrettait franchement de connaître le langage des objets.
« Et,
ajouta Toboggan, ce n'est sûrement pas vous, Monsieur Jean, qui lui avez appris à s'allonger sur son lit avec ses chaussures, pleines de sable. » Corentin s'était enfoui la tête sous un oreiller, mais il avait entendu quand même. Il n'osa pas désobéir, peut-être par peur que maman entre dans sa chambre, ou parce que, malgré tout, le regard borgne de Monsieur Jean avait encore un peu d'autorité sur lui. Il s'assit donc sur le rebord du lit et retira ses baskets. Il les expédia en direction de Toboggan, mais rata le clown qui, imperturbable, affichait son grand sourire rouge. Corentin chercha alors d'autres projectiles. Il décida d'ôter ses chaussettes. Il retirait la première quand il entendit un petit cri aigu.
« Aïe ! Allez-y doucement, je vous en prie !»
Corentin chercha d'où provenait la voix, mais ne vit rien.
« Merci tout de même !»
continua la voix aigrelette.
« Merci de m'avoir libéré de cet endroit sombre et qui ne sent pas très bon !»
Cette réflexion fit s'agrandir encore un peu plus le sourire de Toboggan. Décidément furieux, Corentin regardait par terre avec plus d'attention encore, mais ne voyait toujours rien.
« Mais où êtes-vous »
demanda-t-il.
« Jeune homme, la moindre des politesses est de demander d'abord aux personnes qui elles sont, puis ensuite seulement où elles sont. Cela dit, je suis par terre, approximativement à 6 centimètres de votre pied droit. »
« Ah !» reprit Corentin, qui n'avait toujours pas repéré son interlocuteur.
« Et qui êtes-vous ? »
Corentin apprenait vite les bonnes manières.
« Un grain de sable, jeune homme, du bac du parc des Acacias. Ma famille appartient à ce bac depuis plusieurs générations. Au-delà, les généalogistes prétendent que nous viendrions d'une plage de Méditerranée, rapport à la finesse de notre grain et à la clarté de notre teint. »
Corentin avait enfin repéré le grain de sable. Il était minuscule, quasiment invisible. Corentin le prit sur le bout de son doigt, surpris. C'est bien la première fois qu'il entendait un grain de sable parler. Généralement, les objets les plus petits ne disaient rien, d'une part parce qu'ils n'avaient sans doute pas grand-chose à dire, d'autre part parce que s'ils parlaient tous ensemble, ce serait très vite une terrible cacophonie. Mais il existe partout des exceptions. Le grain de sable perché sur le doigt de Corentin en était apparemment une. La curiosité l'emportant sur la colère de Corentin, il continua la conversation.
« Et comment vous appelez-vous ? » « Ah ! Voilà enfin une question pertinente. Car figurez-vous, jeune homme, que dans un bac à sable, les grains ne portent pas de nom. Nous sommes trop nombreux. Un grain savant du bac avait calculé un jour que pour tous nous distinguer, il aurait fallu que nous portions chacun un prénom composé de 17 prénoms. Mais maintenant que je pars à la rencontre du monde, il m'en faut un. Réfléchissons. Quelque chose commençant par sable. Pas évident. Ou alors commençant par sand. Cela serait plus chic. Sand. Sand. Sandy. Sandy pourrait convenir. « Jeune homme, vous pouvez désormais m'appeler Sandy. Qu'en pensez-vous ? C'est le prénom idéal, d'autant plus qu'à ma connaissance, aucun président des États-Unis, ni d'ailleurs, n'a encore porté ce prénom. »
« Mais, » continua Corentin, que cette conversation cocasse commençait à distraire.
« Pourquoi as-tu, avez-vous quitté le bac à sable ? J'espère ne pas vous avoir emporté dans ma chaussette sans faire attention. » « Jeune homme, ne craignez rien. Je suis venu de mon plein gré. Dans un bac à sable, il ne se passe pas grand-chose, et les autres grains ont généralement des conversations fort limitées. Le bac à sable, c'est bien joli, mais en 18 ans de bac, je n'ai rien appris. Pour quelqu'un comme moi qui vient des plages de sable d'or, il me fallait voyager. Une chaussette comme point de départ à mes ambitions, c'est plutôt amusant, non ?»« Vos ambitions ? Oh, elles ne sont guère originales. » Comme tout le monde, j'aimerais rencontrer l'amour. Et si j'en ai l'occasion, à mon petit niveau, Changer le monde. Changer le monde. Rien que ça.
Bien sûr. Pourquoi? Cela ne fait pas partie de vos ambitions, jeune homme?
Ben, pour l'instant...
Sachez, jeune homme, que chacun à son niveau peut changer le monde. Il suffit de vouloir faire de sa vie quelque chose d'utile. Un petit quelque chose ou un grand quelque chose. Certains ne rendront au monde que des petits services, et d'autres lui seront indispensables. J'espère bien sûr faire un jour partie de cette seconde équipe.
Mais, Sandy, vous n'êtes qu'un grain de sable.
Vous me décevez, jeune homme. Je ne suis qu'un grain de sable, certes, mais je ne passe pas mon temps à jouer aux billes.
Toboggan jeta un clin d'œil à Monsieur Jean.
Il joue encore aux billes, à son âge. Et ensuite, il fait celui qui a honte de son nounours.
Corentin n'apprécia que modérément la critique. Il n'est jamais agréable pour un garçon de recevoir des leçons d'un grain de sable si petit que vous le distinguez à peine, et dont la voix criarde fatigue au bout de 10 mots. De plus, si Corentin était furieux, il avait oublié ses billes perdues pendant quelques minutes. Mais Sandy s'était chargé de le lui rappeler.
« Bien, j'ai été ravi de faire votre connaissance. Continuez la conversation avec mes amis. Moi, je vais regarder la télévision dans le salon. »«
La télévision ?»
s'écria Sandy.
« Voilà qui doit être passionnant. Je vous accompagne, jeune homme. »
Sandy commençait, comme Toboggan, comme Monsieur Jean et même Drac, à énerver particulièrement Corentin. Il y a des jours comme ça où tous les gens que vous rencontrez se sont ligués pour être désagréables. Et le pire, c'est qu'ils veulent vous faire croire que c'est vous et non eux qui êtes de mauvaise humeur.
« Non, Sandy, »
répondit sèchement Corentin.
« C'est hors de question. Et pourquoi ?»«
fit Corentin un peu pris de court.
« Parce que ma mère vient de faire le ménage et qu'il est donc interdit d'amener des grains de sable dans le salon. » Même un seul. C'est une question de respect pour son travail.
Corentin se sentit très fier de sa réponse qui lui sembla inattaquable. Toboggan gloussa de rire.
Quelle belle leçon de morale de la part d'un garçon qui s'allonge avec ses chaussures sur son lit.
Toi, le clown,
conclut Corentin en se levant,
je te signale que tu n'es pas censé être ici pour me faire la morale, mais pour me remonter le moral.
Il sortit de sa chambre et pour se défouler d'un mouvement d'acrobate, sauta sur le canapé. D'un geste sûr et entraîné, il saisit au vol la télécommande et zappa avec dextérité sur les 23 chaînes avant de revenir sur celle diffusant un dessin animé. Une voix ne provenant pas du téléviseur le fit sursauter.
« Jeune homme, vous ne pourriez pas plutôt laisser la 5 ? J'ai cru apercevoir un débat intéressant sur les origines de la vie. »
C'était Sandy, évidemment.
Qu'est-ce que vous faites ici? Comment êtes-vous arrivé sur ce canapé? Sachez, jeune homme, que les grains de sable de rien du tout possèdent néanmoins plus d'un tour dans leur sac, et qu'entre autres tours de magie, ils peuvent assez facilement se déplacer.
Je serais bien curieux de savoir comment.
Question de légèreté. Nous avons l'avantage de pouvoir défier les lois de la pesanteur. Un grain de sable un peu expérimenté, c'est repérer les petits mouvements d'air. Il suffit alors de choisir le bon moment et, comme le surfeur, de se laisser porter par un courant, ascendant, descendant. Sur de très courtes distances, cela fonctionne remarquablement et cela suffit généralement pour atterrir sur quelqu'un qui deviendra votre moyen de transport pour de plus longues distances. Sans me vanter, je connais assez peu de grains de sable qui surfent aussi bien que moi. Alors, jeune homme, cette 5e chaîne, vous la mettez? Vous n'allez pas vous abrutir devant ces images stupides.
Désolé, Sandy, je préfère mes dessins animés débiles.
Jeune homme,
continua Sandy,
j'aurais aimé vous convaincre par le dialogue. Mais si vous vous obstinez, je vais devoir employer des méthodes plus radicales.
Corentin ricana.
Des menaces? Sandy, je serais curieux de voir quelles sont les méthodes radicales d'un grain de sable encore moins que minuscule, invisible.
Et pour narguer Sandy, il zappa une nouvelle fois sur toutes les chaînes. Expert, il se sentait en sécurité dans cet exercice. Pourtant, arrivé à la 5e chaîne, la télécommande se bloqua.
Corentin eut beau insister, rien n'y fit. Il entendit alors une voix étouffée.
« Eh bien, jeune homme, vous doutez toujours des pouvoirs magiques des grains de sable ?»«
Qu'est-ce que vous avez encore fabriqué ?»«
Oh, rien, j'ai seulement bloqué la télécommande sur la chaîne que je désirais. » »«
Mais comment vous faites ça ?»«
Rien de plus simple, mon garçon. Notre taille si ridiculement minuscule, et même invisible, comme vous le dites, nous permet de nous moquer des portes, des serrures et pièces se prétendant hermétiques. Tous les horlogers et les électriciens vous le diront, ils craignent bien davantage le sable que l'eau. L'eau coule, s'écoule, sèche. Le grain de sable se pose, pénètre, reste. Une fois à l'intérieur d'une télécommande, c'est un exemple. Il suffit de s'y connaître un peu pour savoir sur quel composant se placer, entre quel bouton et quel fil se glisser pour éviter le contact. Et hop, le tour est joué. Bien, jeune homme. Après cet exposé technique, qui j'espère vous rendra moins prétentieux à l'avenir, j'aimerais me concentrer sur cette émission qui me semble autrement plus passionnante.
Corentin bougonna sur son canapé. Il y a des jours comme ça. À l'école, ses amis lui volaient ses billes. Tout seul dans sa chambre, on lui faisait la morale, et dans son salon, on le privait de télévision. Maudits objets. Seul, il ne le fut pas longtemps. Maman entrait. Elle jeta un œil étonné à la télévision. « Tu ne regardes pas une idiotie japonaise aujourd'hui ?» Toute la soirée, Sandy insista auprès de Corentin pour qu'il l'emmène le lendemain à l'école. Il voulait voir le monde, découvrir le monde, s'instruire. Corentin finit par accepter. Il savait que de toute façon, Sandy viendrait, même en passager clandestin. En classe, Sandy se montra particulièrement infecte. Béatrice, l'institutrice, donnait un cours de grammaire française.
« C'est ça votre école ? Savoir quel chapeau doivent porter les voyelles ou si telle consonne vive seule ou en couple ? Quel intérêt ?»
Ces critiques continuèrent toute la matinée. Peu avant la sonnerie de midi, sans doute agacée par l'inattention de Corentin qu'elle avait fini par remarquer, Béatrice l'appela au bureau.
« Corentin, il nous reste 5 minutes avant la sortie. Pourrais-tu nous résumer le cours de ce matin ?»
Corentin, bien sûr, n'avait rien pu écouter, pas un seul mot. Écarlate, il s'avança à contre-cœur vers le tableau. Dans la classe, on sentait sur les visages des copains un mélange de sourires sadiques et de grimaces sympathiques. Corentin bredouilla quelques mots incompréhensibles.
« Articule, Corentin !»
ajouta Béatrice en se rapprochant de lui. La situation semblait désespérée quand Mademoiselle Béatrice se tordit tout d'un coup en hurlant.
« J'ai une poussière dans l'œil !»
Une poussière dans l'œil, chez la plupart des gens, ce n'est pas grave. Mais chez les maîtresses, c'est plus compliqué. Il faut que vous compreniez que pendant des siècles, les maîtresses ont porté de grosses lunettes. C'est d'ailleurs à leurs grosses lunettes qu'on reconnaissait une maîtresse dans la rue. Mais les grosses lunettes rendent moins jolies même les maîtresses les plus mignonnes. Et quand la maîtresse est moins jolie, les garçons de la classe sont moins amoureux d'elle. C'est comme cela que ça se passe, tout le monde le sait. Et quand les garçons sont moins amoureux de leur maîtresse, ils l'écoutent moins, ils apprennent moins et font davantage le bazar. C'est pour cela que maintenant les maîtresses, les jeunes, pas les vieilles, ne portent plus de grosses lunettes, mais des lentilles de contact. Elles sont adorables. Les petits garçons de toutes les couleurs dans la classe les adorent et tout se passe bien. Sauf en cas de poussière dans l'œil, quand en plus la poussière se coince entre la pupille et la lentille. En un réflexe irréfléchi, Béatrice se frotta l'œil. Elle fut soulagée dans l'instant et pensa juste après
« Ma lentille !»
Y voyant moins de l'œil droit, elle voyait bien du gauche du moins qu'elle l'avait fait tomber. Toute la classe se retrouva donc à 4 pattes dans la classe pour chercher une lentille invisible. La réponse de Corentin devant le reste de la classe n'était plus à l'ordre du jour. Ce fut Dico, la meilleure de la classe, qui retrouva la lentille. C'est normal, Dico portait des lunettes, juste avant la sonnerie. Corentin, lui, avait retrouvé Sandy et le déposa sur son épaule.
« Joli saut, n'est-ce pas, jeune homme ?
se vanta le grain de sable, en se redressant comme si quelqu'un pouvait l'admirer.
En plein dans l'œil! Et pourtant le vent était défavorable, avec même un léger brouillard de craie. Du grand art, tu n'en trouveras pas beaucoup des grains de sable comme moi.
La récréation ce jour-là dura longtemps. Avant de sortir, Sandy avait eu le temps de se glisser dans la montre de Béatrice et d'y dérégler la trotteuse. Meghan ouvrit sur sa tablette leur jeu préféré. Il s'agissait de faire sauter des singes pour attraper des bananes qui apparaissaient à intervalles plus ou moins réguliers. Meghan ne s'en tirait pas mal, mais elle avait de l'entraînement. Pourtant, depuis longtemps, c'est Drake qui tenait le meilleur score, son rival sérieux dans la classe. Chacun essaya néanmoins de détrôner Maximilien en saisissant comme chaque matin la tablette avec enthousiasme, puis en la passant à son voisin avec résignation. D'autant plus que, curieusement aujourd'hui, les bananes apparaissaient à intervalles très irréguliers. Quant aux singes, ils se montraient particulièrement poussifs dans leurs sauts. Ce n'était pourtant pas à cause des bananes qu'ils avaient mangées depuis le début de la récréation.
« C'est pas du jeu !» grondait l'ensemble des concurrents de Meghan. « Ta batterie est naze !»
N'écoutant pas les mauvaises excuses des mauvais joueurs, Corentin essaya à son tour. Les singes recouvrèrent instantanément leur ressort, tandis que l'apparition des bananes semblait suivre subitement le rythme régulier d'un tam-tam africain. Corentin pulvérisa le high score. Ces singes se gavaient encore de bananes quand la maîtresse s'aperçut que sa montre n'indiquait pas la même heure que la pendule sous le préau et s'époumona à les faire rentrer.
« On se retrouve à la sortie au bac à sable des acacias, » glissa Drake, vexé.
« C'est ça !»
répondit Sandy, qui était remonté sur l'épaule de Corentin.
« J'y connais un ou deux amis, un ou deux milliers d'amis. On te réserve une petite surprise. Au fait, jeune homme, à qui dit-on merci pour les bananes ?»
Au rendez-vous du bac à sable des acacias, à 16h51. La majorité des élèves de la classe était présente, comme chaque fin d'après-midi. Corentin mettait en jeu une de ses dernières billes, Pirate, une agate au teint trouble qui avait connu jadis une heure de gloire, mais qui, désormais ébréchée, ne roulait plus tout à fait droit. Elle n'avait pas fait de compétition depuis très longtemps. Corentin l'avait retrouvée par hasard cachée au fond d'un tiroir et avait eu bien du mal à la convaincre de ressortir de sa retraite. Pirate fit un ravage. Bing ! Un véritable massacre ! Bang ! Elle semblait voler dans les creux et les bosses du terrain de sable. Parfois, on croyait son élan un peu court. Mais non, elle trouvait toujours le coup de rein nécessaire pour aller toucher la bille visée. Bing ! Parfois, sa trajectoire paraissait mal calculée et chacun pensait qu'elle raterait largement sa cible. Mais elle épousait tellement la forme du sable, à moins que ce ne soit le contraire, mais cela personne ne pouvait l'imaginer, qu'elle se permettait des changements de direction étonnants, parfois même des demi-tours renversants, pour finalement toujours finir par aller frapper dans un tintement clair sa rivale. Bang ! Corentin récupéra l'ensemble de ses billes perdues depuis des semaines. Il avait un peu honte. Lui seul entendait Sandy, perché à l'entrée du bac sur le panneau, interdit aux plus de 6 ans, qui hurlait ses ordres, tel le coach d'une équipe de football américain.
« À droite, formez un creux. À gauche, on se regroupe. On forme un mur pour que Pirate redescende. Voilà. Devant, on s'écarte pour qu'elle prenne de la vitesse. Encore un peu. Voilà, très bien. Attention, quand je vous le dirai, on forme une petite bosse pour la dévier vers Cendrillon. Attention. 1, 2, 3, maintenant !»
Bing.
« Impeccable ! Bravo les gars, c'est du billard ! Repos pendant quelques secondes !»
Juste après avoir repris Rennes et toute sa compagnie à Drake, Corentin venait de regagner Cendrillon. Il avait un peu moins honte en sentant Rennes et Cendrillon dans sa poche. Il poussa l'avantage jusqu'au bout.
« Drake, il va falloir jouer Cléopâtre ?»
Drake savait que Corentin allait le demander. Drake savait qu'il ne pourrait pas refuser. Il sortit donc avec lenteur la blanche Cléopâtre de la bourse de cuir noir,
hormis une tête de mort brodée en rouge qui pendait à sa ceinture.
« Ok, Coco, je joue Cléo, mais à une condition, je tire le premier. »
Les autres joueurs, lassés ou plumés par le raz-de-marée de pirates, s'étaient dispersés dans le parc. À l'annonce du duel final, ils se rassemblèrent en une mêlée serrée autour du bac. Corentin jeta un œil interrogatif vers le perchoir de Sandy.
« Pas de problème !»
déclara le commandant en chef des forces du bac.
« Laisse-le venir, on ne craint rien. Allez les gars, en piste, on se prépare pour l'opération Cléopâtre !»«
Ok, vas-y Drac, je te laisse la main !»
répondit Corentin en essayant de prendre l'accent qu'ont les acteurs américains dans les westerns. Il plaça Pirate dans le coin du bac diamétralement opposé à celui de Cléopâtre. Lorsque Drac tirait, il ne ratait jamais sa cible. Il n'employait pas les trajectoires tordues de Corentin. Ses tirs étaient nets, la ligne était droite, pure, infaillible. Le choc n'avait pas le timbre clair des victoires de pirates, mais le bruit sec d'un carreau entre deux boules de pétanque. Les tirs de Drac ébréchaient régulièrement les billes les plus résistantes. La mêlée des spectateurs se resserra encore un peu. Concentré, Drac s'allongea, évalua en un instant l'angle et la distance, calcula et tira. Cléopâtre sembla voler au-dessus du sable. La trajectoire était parfaite. Cléopâtre fonça droit sur Pirate, sans surprise, sans échappatoire.
« Maintenant !»
entendit hurler Corentin. Il savait qu'il était le seul à pouvoir entendre Sandy. Cléopâtre se planta alors dans un petit monticule de sable que, curieusement, personne n'avait remarqué auparavant, pas même Drac, et stoppa brusquement sa course. Elle s'était enlisée à 2 centimètres de Pirate.
« C'était un peu court, jeune homme !»
cria Sandy à l'intention de Drac.
« C'était un peu court, jeune homme !»
répéta Corentin à l'intention de Drac, mais à haute voix. Il s'allongea à son tour, sans mesurer ni angle ni distance. Il envoya Pirate heurter Cléopâtre doucement afin de ne pas les brécher. Il eut même le plaisir de jouer ce dernier coup sans aucune intervention de Sandy. Pour 2 centimètres, bing! Vous vous demandez sûrement pourquoi Corentin prenait tant de plaisir à gagner, alors que, il faut bien l'avouer, il trichait. D'abord, Corentin n'avait fait que récupérer ses billes perdues. Ensuite, Cléopâtre était vraiment trop jolie. Enfin, après avoir savouré ce moment de gloire, Corentin se promettait de remettre son butin en jeu sur terrain neutre sans Sandy, un autre jour. Sauf peut-être Cléopâtre. Ou sauf Pirate, plutôt, qui avait bien mérité une seconde retraite. Sur le chemin de la maison, Corentin n'oublia pas de remercier Sandy, toujours en équilibre sur son épaule. Se cachant en position de force, Sandy en profita pour se lancer dans un de ses discours favoris. Ne serait-ce que par reconnaissance cette fois, Corentin était bien obligé d'écouter.
« Jeune homme !»
commença Sandy. « Je pense vous avoir fourni aujourd'hui la preuve par 3 qu'être minuscule est un avantage considérable et non un handicap. Vous comprenez maintenant combien il est vexant de nous faire traiter de grains de sable de rien du tout, ou de vous entendre vous moquer quand j'annonce que je veux changer le monde. De toute façon, vous les humains, que pouvez-vous comprendre du monde? Votre hauteur vous permet de dominer la plupart des objets que vous rencontrez, mais baisser les yeux est pour vous une marque de faiblesse. Regardez vos pieds, une lâcheté. Et plutôt que de vous pencher vers la vie, c'est-à-dire l'herbe, la terre, le sable, vous scrutez le ciel, c'est-à-dire le grand vide. Je ne m'explique pas comment, avec une telle conception des choses, vous avez pu coloniser la planète. Au moins, Corentin, à défaut d'avoir convaincu les humains, je t'ai au moins convaincu toi. On peut se tutoyer, je pense, maintenant que nous sommes amis. Tu comprends aujourd'hui que lorsque l'on veut faire quelque chose de sa vie, la taille ne fait rien à l'affaire. Corentin, à ton avis, quelle est la distance la plus courte entre 2 points?
La droite?
Non, le rêve.
Dans la chambre de Corentin, Le retour des billes perdues fut commenté et apprécié tel un exploit sportif dont le prestige retomberait sur l'ensemble des habitants. Sandy devint un personnage respecté entre les quatre murs. D'ailleurs, il sortait de moins en moins de la chambre. Sandy décida qu'il avait suffisamment dévoilé son pouvoir et qu'il n'avait plus de temps à perdre à ses jeux de récréation. Il devait changer le monde. Il passa donc les semaines suivantes à converser pendant des journées entières avec Robert, le vieux dictionnaire. Il demanda ensuite à Corentin d'inviter un à un dans la chambre les gros volumes de la bibliothèque du salon. Il appela cela des conférences en chambre. Sandy accumula bientôt une culture énorme. Il fit même de temps en temps, puis de plus en plus souvent, les devoirs de Corentin. Ce n'est pas comme tricher aux billes, c'est moins grave. Corentin grimpa vite à la seconde place de la classe, derrière Dico Dico. Ça étonnait maman, mais elle y voyait une certaine logique, puisque désormais son fils emportait les plus gros volumes de la bibliothèque dans sa chambre et regardait souvent la chaîne de documentaires, au point de s'endormir devant la télé, mais sans vouloir qu'on l'éteigne. Le mois suivant, Sandy constitua dans la chambre un groupe de réflexion baptisé « Pour changer le monde ». Il fut élu président du groupe. Un stylo plume, que Corentin n'utilisait plus, car il avait un peu tendance à fuir, fut élu secrétaire. La calculette de bureau fut élue trésorière. Pour le reste, le groupe était essentiellement composé de livres d'école ou de vieux objets qui ne servaient plus à rien et s'ennuyaient. Le groupe de réflexion fut un succès. Le groupe se lançait à longueur de journée dans des conversations enflammées sur le sens dans lequel le monde tournait. Ils dressèrent bientôt la liste de leurs premières revendications. Ils exigeaient de recevoir un journal, au moins hebdomadaire, dans la chambre et, si possible, pas le programme télé. De pouvoir écouter France Culture à la radio quand Corentin rentrait, et non des chaînes de radio qui passent en boucle les mêmes chansons avec des rires débiles d'animateurs entre deux. Que Corentin fasse un peu moins de bruit quand il jouait dans la chambre le mercredi et le samedi pour ne pas empêcher le groupe de réflexion de réflexionner en paix. Il restait à Corentin le dimanche. Le dimanche, il n'y avait pas de réunion du groupe. Concernant le premier point, Corentin, consciencieux, fit transiter l'ensemble des publications que recevait la boîte à lettres familiale vers la chambre pour que le comité de réflexion fasse le tri dans les journaux d'annonces immobilières et de promotions alimentaires. Corentin estima que les efforts qu'il réalisait pour le premier point le dispensaient de tenir compte du deuxième. Quant au troisième, Corentin fit des promesses qu'il n'eut jamais l'intention de tenir. On n'allait quand même pas l'empêcher de faire ce qu'il voulait dans sa propre chambre. Monsieur le Président fit savoir, par l'intermédiaire écrit avec de gros pâtés, de son secrétaire, qu'il n'était pas d'accord que leurs réflexions sur le changement du monde les avaient amenés à penser qu'il fallait bien commencer un jour, et que le plus simple était de commencer par changer cette chambre. Cette chambre où l'on mettait au placard, sous le lit ou même à la poubelle, un objet qui ne plaisait plus au maître des lieux, se prenant pour un dieu tout-puissant. Ou, selon son bon vouloir, telle peluche favorite pouvait dormir dans un lit chaud quand telles autres se trouvaient éjectées pour passer la nuit sur une moquette rase et froide. En réalité, la majorité des habitants de la chambre se sentaient bien dans leurs petites habitudes, se satisfaisant même d'une nuit sur la moquette. La chambre de Corentin était la seule pièce de l'appartement qui en possédait. Et commençait à trouver fort ennuyeux le groupe de réflexion qui les empêchait de tourner en rond entre leurs quatre murs. Le groupe de réflexion énervait particulièrement le clown toboggan. Enfin, monsieur le président du groupe de réflexion signala que sans changement significatif d'attitude, il cesserait d'aider Corentin à rédiger ses devoirs. « Ça tombe bien, » répliqua Corentin sans passer par la voix écrite. « J'en ai marre d'avoir des bonnes notes. Les copains commencent à me faire la tête. » Sandy soupira et déclara que lui s'occupait de choses sérieuses. « Changer le monde ?» interrogea le clown toboggan, sans qu'on puisse deviner si son sourire rouge cachait une moquerie. « Exactement !» Sandy,
Vous dites souvent que la distance la plus courte entre deux points, c'est le rêve. D'accord. Mais la distance la plus courte entre un point et le rêve, c'est la ligne droite. Tracez une droite, bien droite, entre les deux, jusqu'au rêve, et marchez dessus, sans s'écarter d'un pas, sans regarder de côté, sans regarder derrière, sans regarder en bas. Marchez en fixant simplement le point rêvé.
Comme un funambule?
Exactement. C'est plutôt risqué. On peut tomber de haut.
Évidemment.
Si je vous comprends bien, vous voulez donc me dire, monsieur Toboggan, que le chemin le plus court entre deux points est le rêve et la volonté?
Exactement, répondit cette fois-ci Corentin.
Je ne savais pas que j'avais un clown philosophe.
Vous devriez rejoindre notre groupe, maître Toboggan,
conclut Sandy. À la guerre succéda une phase de réconciliation où Sandy tenta d'apprendre à Corentin à philosopher et Corentin tenta d'apprendre à Sandy à jouer. Sans succès. Ces tentatives furent suivies d'une longue période de cohabitation.